Marc chapitre 10, verset 13. Et on apporta à Jésus de petits enfants afin qu'il les touchât, et les disciples reprenaient ce qui les apportait. Jésus, voyant cela, en fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et les ayant pris entre les bras, il posa les mains sur eux et les bénit. Et comme il sortait sur la route, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, lui demanda : Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle ? Et Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon sinon un seul, Dieu. Tu sais les commandements : ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages. Ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. Et répondant, le jeune homme lui dit : Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit : Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et toi tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Et viens, suis-moi, ayant chargé ta croix. Et lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, ayant regardé tout alentour, dit à ses disciples : Combien difficilement sont ceux qui ont des biens et qui entreront dans le royaume des cieux. Et les disciples s'étonnèrent de ces paroles. Et Jésus, répondant encore, leur dit : Enfants, combien il est difficile à ceux qui confient aux richesses d'entrer. Combien il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile qu'un chameau passe dans un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Et les disciples s'étonnèrent excessivement, disant entre eux : Mais qui peut être sauvé ? Et Jésus, les ayant regardés, dit : Pour les hommes, cela est impossible, mais non pas pour Dieu, car toutes choses sont possibles pour Dieu. Jésus venait de parler de recevoir le royaume des cieux comme un petit enfant. Et à ce moment, un homme se précipite vers Jésus. Le livre de Matthieu nous dit qu'il était jeune. Le livre de Luc nous dit que c'était un chef parmi le peuple juif, donc quelqu'un qui était d'un rang social élevé. Il était sérieux, plein de révérence, et connaissait en Jésus un grand rabbi qui pouvait montrer aux hommes le chemin qui mène au royaume des cieux. Et ce jeune homme va commencer à s'adresser à Jésus en lui disant : Bon maître. Et là, le Seigneur va essayer de lui apprendre quelque chose. Évidemment, ce jeune homme n'avait aucune connaissance de qui était Jésus. Alors Jésus, qui connaît ses pensées, qui connaît son cœur, va lui répondre : Nul n'est bon si ce n'est un seul Dieu. En d'autres termes, Jésus lui dit : Si tu ne crois pas que je suis le Fils de Dieu, si tu crois que je suis un homme comme les autres, dans ce cas, ne m'appelle pas bon. Car nul n'est bon. Aucun homme n'est bon. Un seul l'est, Dieu. La Bible nous dit que tous les hommes ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Il voulait faire comprendre à ce jeune homme qui s'imaginait être assez bon pour recevoir une récompense qu'en réalité, il ne l'était pas. Mais il ne va pas le repousser, parce que Jésus ne repousse personne. Il va le laisser adresser sa requête. Et cet homme va lui exposer ce qu'il a sur le cœur. Jésus, alors qu'il venait de parler de recevoir le royaume des cieux comme un petit enfant, le jeune homme demande : Que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle ? Voyez la contradiction entre le recevoir et le faire. Et puisque le jeune homme imaginait pouvoir obtenir le royaume des cieux comme une récompense à ses propres efforts, le Seigneur le renvoie à la loi, particulièrement au commandement qui concerne le devoir d'un homme envers son prochain. Alors le jeune homme prétend avoir observé toutes ces ordonnances de la loi dès son plus jeune âge. C'était une personne tout à fait remarquable, dont les traits de caractère étaient agréables à Dieu. Et le Seigneur reconnaît là la sincérité de son cœur et le considère avec son regard d'amour. Toutefois, cet homme se trompait grandement lorsqu'il pensait qu'il pouvait obtenir la vie éternelle en faisant le bien. Alors il demande « Que me manque-t-il encore ?» Certains analystes bibliques voient dans la réponse du Seigneur une invitation au partage. Certes, le partage est une valeur chrétienne. Néanmoins, il me semble que dans ce passage, c'est pas tout à fait ce que Jésus veut nous apprendre. Le jeune homme n'avait toujours pas compris qui était Jésus. Remarquez, il ne dit plus « bon maître », mais seulement « maître ». Et il se pensait toujours suffisamment bon pour pouvoir plaire à Dieu. Alors dans sa réponse, Jésus va pointer du doigt là où ça fait mal. En d'autres termes, il va dire « Es-tu vraiment capable d'accomplir la loi ? Parfaitement, en sorte d'être trouvé agréable devant Dieu ? Dans ce cas, si tu veux obtenir le royaume des cieux comme une récompense à tes efforts, alors applique la loi parfaitement. Et si tu penses pouvoir accomplir la loi parfaitement, alors applique le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et si vraiment tu appliques ce commandement dans Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ce cas, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et là, le jeune homme comprend alors ses limites dans l'accomplissement de la loi et réalise que finalement, il n'est pas si bon que ça, car il avait de grands biens et des attaches terrestres. Et ça en va tout triste. Le Seigneur montre alors à ses disciples la terrible emprise des richesses terrestres sur le cœur humain. Un riche entre très difficilement dans le royaume des cieux. Or, parmi les Juifs, la richesse était signe de bénédiction de Dieu. Être riche était comme avoir été récompensé de Dieu. Alors, en disant ces paroles, le Seigneur étonne ses disciples. Ses disciples ne comprennent plus rien. C'est comme un bouleversement pour eux. Et entre eux, ils se posent la question, mais donc, qui est-ce qui peut être sauvé? Puisque quelqu'un qui d'apparence a été béni de Dieu, pour lui, c'est très difficile. Et ils en concluent entre eux que, finalement, personne peut être sauvé. Alors, il s'ensuit une déclaration encore plus forte. Le salut est une chose non seulement difficile ou improbable pour l'homme, mais impossible. Seule l'intervention de la puissance de Dieu rend le salut possible. En d'autres termes, le Seigneur dit, s'il s'agit de savoir ce que l'homme peut faire, personne ne peut être sauvé, mais Dieu, lui, peut vous sauver. Alors, ça serait intéressant de rappeler le pourquoi de la loi, cette loi auquel était si attaché ce jeune homme. Dieu avait instauré une loi qui faisait séparation entre lui et les hommes. C'était pour montrer à l'homme que par ses propres efforts, il n'était pas capable de plaire à Dieu. La Bible nous dit « La loi est intervenue afin que le péché abondât. » Romains 5, verset 20. La loi est intervenue afin que chaque homme soit en mesure de reconnaître qu'il est pécheur devant Dieu. La loi est intervenue afin que chaque homme puisse avoir honte de ce qu'il est, afin que chaque homme reconnaissent qu'ils méritent le châtiment sévère de Dieu. Et si ici quelqu'un s'imagine pouvoir s'approcher de Dieu par sa bonne conduite, il se trompe complètement. Par contre, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Jésus dont nous venons de parler ce matin s'adresse à toi ici qui ne le connais pas encore. Et il te dit, ne t'en fais pas. Tu devais mourir, mais j'ai subi le châtiment de Dieu à ta place, afin que tu sois épargné. Le salut ne se mérite pas. Le salut n'est pas une récompense à nos propres efforts. Le salut est offert par la grâce à ceux qui veulent bien l'accepter. La grâce de Dieu, c'est de nous donner quelque chose que nous ne méritions pas, quelque chose de trop merveilleux pour nous. Et une fois que l'on accepte simplement cela, notre vie change. Pour certains, le changement est spectaculaire. Pour d'autres, le changement est progressif. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où on devient enfant de Dieu, nous devenons également héritiers de son royaume des cieux. On peut s'adresser à Dieu comme à un père. Et lui, il répond nous montrant qu'il nous aime. Et à partir du moment où on accepte de prendre la main de Jésus qui se tend vers nous, la Bible nous dit que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu que nous avons reçu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, versets 38 à 39. Une fois devenu chrétien, notre responsabilité, bien sûr, comme l'a rappelé Christian, est de marcher sur terre d'une manière qui honore Dieu. Mais là, une fois de plus, par nos propres moyens, c'est bien souvent très très difficile. Et généralement, nous n'y arrivons pas. Nous avons toujours besoin du secours du Seigneur, même en tant que croyants, pour marcher d'une manière digne de lui. Dieu que nous connaissons, que plusieurs connaissent dans cette salle, attend que nous nous approchions de lui tel que nous sommes. Ce Dieu dont nous venons de parler ce matin, ce Dieu de grâce, c'est ce Dieu qui a usé de miséricorde envers une prostituée, Rahab, afin qu'elle soit épargnée de la destruction de Jéricho, parce qu'elle avait cru en la bonté de Dieu. C'est ce Dieu qui a délivré Naaman de la lèpre. C'est Jésus qui allait rencontrer une pauvre Samaritaine qui vivait isolée pour lui annoncer la bonne nouvelle et lui révéler les secrets de l'adoration. C'est Jésus qui s'est avancé vers Zachée, le publicain voleur. C'est Jésus qui a fait entrer au paradis le brigand cloué sur la croix. Nous pourrions encore passer beaucoup de temps à chercher les passages de la Bible où Dieu manifeste sa grâce. Chacun est invité à lire chez soi sa Bible et découvrir les passages où Dieu manifeste son amour. Et pour finir, je vous lirai un poème écrit il y a quelques années par un groupe de jeunes chrétiens. La vie est faite de haut et de bas. Jusque-là, rien de très original. Il y a des instants de joie, de rire, de bonheur, et puis d'autres moments un peu plus difficiles à traverser. Des amis qui partent loin, des êtres chers qui nous quittent, des périodes de doute, de déception, de déprime, enfin vous savez bien. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs d'entre nous. La plupart du temps, on arrive à remonter tout doucement la pente, on prend son courage à deux mains et on se dit que c'est la vie. Et la vie continue, et c'est vrai, elle continue. Mais il reste toujours ces petites cicatrices au niveau du cœur qui font mal de temps en temps. Cette amertume qui repointe le bout de son nez quand on croyait enfin avoir réussi à tourner la page. Tôt ou tard, on arrive tous à la même conclusion. La vie fait mal. Mais il y a autre chose qu'on ne voit pas toujours. Dans ces moments de solitude, alors qu'on pense qu'il n'y a plus personne pour nous remonter le moral, il reste encore quelqu'un. Un ami qu'on n'avait même pas remarqué, qui se tient là, tout près, attendant qu'on lève un peu les yeux pour enfin le voir. Un ami, le meilleur ami qui puisse exister, qui nous regarde nous débattre avec nos soucis. Un ami qui nous voit pleurer en silence, qui entend nos soupirs, qui connaît même nos désirs les plus profonds. Un ami qui aimerait tellement nous aider, nous réconforter. Un ami prêt à se sacrifier pour nous. Un véritable ami, un ami qui attend patiemment qu'on lui demande son aide. Vous ne l'aviez peut-être encore jamais remarqué, mais il se tient là, tout près, toujours là. Il suffit de que vous leviez les yeux et que vous preniez la main qu'il vous tend.